Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets, and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10. Place your first bet on any game and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Cet épisode du Super Athlétique est une présentation de Game Time, votre nouvelle application pour mettre la main sur des billets de dernière minute. Saviez-vous que les billets pour les matchs de Montréal ont tendance à baisser tout juste avant le début des parties? Game Time surveille la fluctuation des prix en temps réel parmi des milliers de fournisseurs et vous montre ensuite les meilleures aubaines de dernière minute, ce qui permet d'aller chercher des rabais allant parfois jusqu'à 60 %. Plus de 12 millions d'amateurs ont téléchargé l'application Game Time et ont ainsi découvert que c'est le moyen le plus rapide et le plus simple d'accéder aux matchs. Et il n'y a pas que des billets pour des événements sportifs, on peut aussi trouver des billets pour des concerts de musique, des pièces de théâtre. Alors, téléchargez Game Time sur l'App Store ou bien sur Google Play, utilisez le cadran à votre avantage et sortez gagnant avec des billets de dernière minute. Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, émission du vendredi 1er novembre 2019. Est-ce qu'il vente chez vous? Est-ce qu'il y a avez-vous de l'électricité? Il y a presque 1 million de personnes qui n'ont pas d'électricité en ce moment, mais où que vous soyez, et peu importe quand vous nous écoutez, bienvenue au Super Athlétique. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Basu. Bonjour Harpin, comment ça va?
Ben, chez moi, je peux dire au moins que moi, j'ai pas d'électricité. Alors, c'est...
Ah, ouais.
Ouais, mais en tout cas, on est sorti. Moi et mon fils, on est sorti pour l'Halloween hier soir, puis on va le faire encore ce soir, alors je suis content. Lui est content d'avoir deux Halloween au lieu d'un. Alors, tout le monde qui chiale pour le fait que l'Halloween a été reporté cette année. J'ai un petit gars de 5 ans qui est bien content que c'était le cas.
Ben oui, c'est ça, tu as suivi la recommandation de Paul Campbell, notre ami spécialiste des gardiens de but, qui dit « Laissez donc vos enfants profiter du fait qu'ils ont, ils peuvent avoir deux soirées de trick-or-treat au lieu d'une seule. » Fait que tu fais bien. Ouais. Ben moi, je peux te dire en tout cas qu'à Dallas, il fait beau, c'est légèrement frais, mais même s'il fait un peu froid, la ville de Dallas n'a pas décidé de remettre à plus tard le match opposant le Canadien aux Stars demain.
Alors, c'est une bonne nouvelle.
On maintient le cap.
Ouais, ça, c'est une bonne...
On maintient le cap, c'est ça. Alors, bon voyage jusqu'à maintenant pour le Canadien qui a remporté ses deux rencontres en Arizona et également à Las Vegas. Ça faisait, si je ne m'abuse, depuis le mois de janvier que le Canadien n'avait pas remporté deux matchs de suite à l'étranger. Il est maintenant sur une séquence de trois victoires successives. Ça pourrait se poursuivre à quatre s'il réussit à battre les Stars. C'est un bon moment après un mois d'activité dans la Ligue nationale. C'est un bon moment pour le Canadien de finalement prendre son rythme puis de coller quelques victoires après avoir commencé la saison en gagnant une, en perdant une, puis en ayant l'air d'une équipe de 500. Là.
Oui, en fait, c'est drôle que c'est Claude Julien mentionné. C'est dernièrement, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, mais comment une chose qu'il n'aime pas de son équipe, c'est d'être une équipe de 500. C'est ce qu'il ne voulait pas. Ouais. Puis l'équipe a pris les moyens pour faire en sorte que effectivement ils ont collé quelques victoires de suite à un moment opportun. Un voyage qui pourrait leur faire mal, tu sais, c'est un voyage difficile. Entrer en zone en fuseau horaire post-pacifique, deux matchs de suite contre deux équipes qui vont vraiment bien en ce moment en Arizona et Las Vegas, puis de sortir de là avec 4 points en étant faire jouer Keith Kincaid à Vegas, c'est quelque chose de, en tout cas à mon avis, est pas mal surprenant et c'est une excellente nouvelle pour cette équipe Au début de la saison, ils faisaient des remontées en troisième période, puis on disait « Ah ouais, mais c'est peut-être pas la meilleure chose qu'ils sont forcés de faire ça à chaque fois. » Mais je pense que dans le cas du match à Vegas, c'était une bonne chose parce que moi, et je pense que pas mal tout le monde, et peut-être même Claude Julien lui-même, croyait que c'est un match qu'il pouvait pas laisser juste filer ces deux points-là, tu sais, mais en même temps, il ne pouvait pas avoir des attentes que son équipe allait être capable de compétitionner de la façon qu'ils ont fait, puis finalement de sortir de là avec deux points.
Non, effectivement, ben écoute, tu parles de voyage, décalage horaire, etc. Le Canadien a vraiment sauté sur l'occasion quand il était en Arizona avec sa journée d'entraînement avant le match contre les Coyotes, profiter d'un adversaire qui était plus fatigué que lui. Sauf que là, le lendemain, il s'est retrouvé dans une situation inverse où le deuxième match en deux soirs contre une équipe qui était plus reposée, ça aurait pu effectivement être très risqué. Puis c'est intéressant parce que je parlais après le match en Arizona à Brendan Gallagher, puis il dit il y a un avantage face aux Coyotes, puis il fallait en profiter. Puis il dit il y a des moments, différents moments dans le calendrier où c'est nous qui allons être l'équipe la plus reposée, d'autres situations où l'autre équipe va être plus reposée que nous. Puis tu essaies d'en profiter quand tu es reposé, puis de gagner puis trouver des façons de gagner des points quand tu es un petit peu plus fatigué. Fait qu'il dit c'est pour ça que le match face à Vegas est tellement important, parce que tu gagnes pas ce match-là, tu te retrouves à annuler les deux points que tu es allé chercher contre l'Arizona. Et ayant ça en tête, je me disais, si Claude Julien pense comme Brendan Gallagher, il va peut-être faire une entaille à ses pratiques habituelles, puis renvoyer Carey Price dans la mêlée face au Golden Knights. Parce que, tu sais, dans un contexte de trois matchs en quatre soirs, on s'attendait à ce que c'était clair que Kincaid allait jouer. Mais pourquoi pas y aller avec Price contre les deux adversaires les plus coriaces, garder Kincaid pour le match à Dallas et laisser Price donc avoir quatre journées de repos avant une séquence là, de quatre matchs en huit soirs que Claude Julien semble avoir identifié comme étant une grosse semaine pour Carey Price. Ça risque d'être lui qui va garder les buts durant toute la semaine. Donc, je suis un peu d'accord avec toi quand tu dis que t'étais un petit peu surpris qu'il ait décidé d'y aller avec Kincaid là, face au Golden.
Mais en fait, non, moi personnellement, moi, je n'étais pas surpris qu'il choisit d'aller avec Keith Kincaid. Okay. Moi, c'est un peu ça que à mon avis, il fallait, des fois, il faut que tu sois réaliste quand tu gères des voyages comme ça, des voyages de trois matchs en quatre soirs. Puis, tu sais, on a vu exactement la même chose que Claude Julien a fait en Californie l'année passée. On se rappelle que Antti Niemi était envoyé dans le mêlée à San Jose parce que Claude Julien avait identifié le match à Anaheim comme étant un match qui était plus gagnable. Je pense qu'il ne va jamais l'admettre, là, mais il a un peu concédé le match à San Jose, sacrifié le match à San Jose pour effectivement avoir Price contre Anaheim, puis dans le fond, d'une certaine façon, sécuriser les points qui sont là, qui sont disponibles, qui sont à leur portée en termes réalistes. Je pense qu'hier soir, je pense que c'était un peu ça la même chose. Comme envoyer Kincaid, c'est pas comme s'il y a zéro confiance en Kincaid, comme c'était le cas un peu avec Miami à l'époque, en mois de mars en Californie. Mais en même temps, Je pense qu'il se disait, bon, ben moi, je préfère avoir mon numéro 1 dans les deux matchs où je trouve que on devrait les gagner. Puis le match qui va être un peu plus difficile, peu importe qui est dans les buts, parce que mon équipe va être fatiguée, je vais envoyer mon auxiliaire là-dedans. Écoute, s'il est capable de performer, puis s'il est capable de nous voler une victoire, tant mieux. Mais moi, je m'attends que mon équipe ne serait pas à leur mieux dans ce match-là. Alors, je vais garder mon numéro 1 pour les matchs où mon équipe seront à leur mieux. Alors, dans le fond, tu sais, je pense que la façon qu'il a géré ça, il voulait faire en sorte qu'il va sortir de ce voyage-là avec 4 points sur 6. Alors là, dans le fond, le voyage, c'est déjà un succès parce qu'il y a déjà 4 points. Mais tu sais, c'est la façon que l'équipe a joué devant Kincaid, un peu malgré Kincaid, même si, tu sais, il a fait des beaux arrêts, mais on s'entend que, comme tu as écrit hier soir, qu'il a donné des buts un peu faciles, puis qu'il aurait pu couper les jambes du Canadien, mais ils ont trouvé une façon.
Puis le Canadien lui-même avait un peu de misère à trouver ses jambes. Ça a été du jeu souvent désorganisé dans sa zone, sauf que j'ai trouvé ça très impressionnant comme performance, surtout dans les 10 dernières minutes. Tu sens qu'il y avait comme une espèce de crescendo dans leur volonté de revenir de l'arrière, d'aller chercher ce match-là. Puis donc, tu sais, souvent, il y en a qui disent que c'est la première période qui peut être la plus difficile quand tu es sur un deuxième match en deux soirs. Sinon, ben d'autres fois, il y en a d'autres qui vont dire « Ah, ben là, c'est rendu en troisième quand l'usure des deux matchs se fait sentir que là, l'équipe commence à s'essouffler. » Mais c'est vraiment, le Canadien a gardé le meilleur pour la fin. Et j'ai trouvé vraiment que c'est de bon augure d'avoir une équipe qui, non seulement se retrousse les manches, mais qui, en même temps, ne se compte jamais pour battu. Puis elle est... Elle croit constamment à ses chances de pouvoir revenir dans un match. Et c'est un. Il y a un esprit. Tu réfères à un voyage en Californie. Je te référais au voyage en Californie il y a 2 ans, quand le Canadien avait amorcé sa saison, exactement à ce temps-ci de l'année, à l'Halloween, quand Max Pacioretty, complètement débiné, avait l'air d'un gars qui reconnaissait que son équipe était pratiquement battue d'avance. Ils en ont fait du chemin depuis ce temps-là, le Canadien, en tant que groupe, pour pouvoir. Croire en leurs moyens beaucoup plus qu'ils le faisaient il y a 2 ans.
Oui, puis l'ironie totale hier soir, c'était le fait que c'est Max Pacioretty qui a perdu la couverture de son homme en prolongation, puis fait en sorte que le Canadien sorti avec 2 points. Mais parce que, effectivement, quand j'ai vu le but de Max Domi, j'ai vu la face de Max Pacioretty, ça m'a immédiatement rappelé de sa face à Anaheim quand il a fait son mea culpa devant les médias. C'était exactement la même face, mais en tout cas, ça, c'est pour. Je trouve que Pacioretty a joué plus ou moins un match ordinaire. Puisque c'est drôle à voir, Pacioretty, il n'a pas l'air de élever son niveau de jeu quand il joue contre le Canadien. Mais Tomáš Tatar, lui, il l'a fait contre Vegas. Je pense qu'il est rendu à 3 buts, 3 passes en 3 matchs contre Vegas. Et puis il y avait une présence en 3e période de ce match-là. Où Tatar, il fonçait derrière le filet pour aller chercher la rondelle, il mettait de la pression sur le défensif des Nets. C'était clair qu'il voulait faire en sorte que le Canadien revienne dans ce match-là. Puis finalement, il marque le but qui réduit l'écart à 1 but et tout ça. Là. Mais ton commentaire est parfait dans le sens où, oui, effectivement, cette équipe-là a changé beaucoup. La transition vers ça a pris place l'année passée, puis moi je dirais même que le parti qui était un peu le point tournant de cette transition-là, je trouve que c'était à Vegas l'année passée, le 22 décembre, parce que si tu te rappelles, avant de partir sur ce voyage-là, il y avait un petit creux dans leur jeu, ils avaient perdu quelques matchs de suite, ils ont eu vraiment un entraînement très difficile à Denver en arrivant là, ils ont perdu à Denver, ils ont gagné en Arizona, puis ils ont fait une remontée exactement comme ils ont fait hier soir, à Vegas le 22 décembre l'année passée. Alors moi, ma question, tu sais, là on est rendu, c'est le 1er novembre, alors c'est pas exactement un mois qu'ils ont joué, mais c'est le premier mois de la saison du calendrier qui a passé. Est-ce qu'il y a un aspect particulièrement de cette équipe-là qui retient ton attention en ce moment-là?
Ben écoute, ce que j'espérais voir de la part du Canadien cette année, c'était que les succès de l'année dernière à 5 contre 5 continuent de se vérifier, continuent d'être la pierre d'assise de cette équipe-là, puis continuent d'être sa principale identité. Et ça, je pense que c'est assez sécurisant de voir que que le Canadien a vraiment des bases solides à égalité numérique. Ça fait une grosse différence dans son jeu. Ça fait également en sorte qu'il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus de constance. Les joueurs savent. Il n'y a pas beaucoup de boîtes à surprises dans cette équipe-là. D'un soir à l'autre, le niveau d'effort est là. L'exécution, ça va être flottant, dépendant du calendrier, dépendant du niveau d'énergie, etc. Mais on n'entend jamais les joueurs ou certains de nos collègues dire. Ils ne se sont pas présentés ce soir. Tu sais, le fameux cliché, là, j'ai l'impression, des années 80. Ils ne se sont pas présentés ce soir. Mais le Canadien se présente à peu près tout le temps. Il y a des joueurs, des fois, qui ne se présentent pas, mais en tant qu'équipe, ils se présentent. Alors, même si ça... Tu sais, je ne veux pas m'emballer exagérément pour une équipe qui n'a quand même pas fait les séries l'année dernière puis qui est loin d'être garantie de les faire cette année. Sauf que c'est vraiment ce qui me frappe depuis le début de l'année, c'est le fait qu'ils ont... La belle structure qu'ils se sont donnée l'année dernière ont été capables, c'était pas, comme on dit en anglais, c'était pas un fluke. Tu sais, il y a quelque chose, ils ont quelque chose de très solide avec lequel bâtir, puis ça, c'est précieux parce qu'il y a plein d'équipes qui cherchent ça puis qui ne le trouvent pas.
Alors, je suis entièrement d'accord parce que dans le fond, l'année passée, la structure, tu sais, c'était là, puis Claude Julien a essayé de l'implanter pendant le camp d'entraînement, mais il faut être honnête, au début de la saison passée, il n'y avait pas vraiment les effectifs en main pour le jouer au plein potentiel du système, dans le fond, parce que, si on se rappelle bien, il y avait un quatrième trio qui avec qui le coach Julien était...
Qui n'était pas de calibre,
et qui l'entraîneur était très publiquement pas satisfait avec. C'était pas un quatrième trio qu'il voulait avoir, puis c'était un message qu'il lançait direct à son directeur général. « Va me chercher un quatrième trio. » Bon, ben ça a pris un an. Ben non, il est allé chercher des renforts aux dates limites des échanges. Puis il faut dire, sans donner grand-chose, c'était quand même assez bien fait d'aller chercher Nate Thompson et Jordan Wheel sans vraiment donner des atouts qu'ils voulaient garder. Mais là, Jordan Wheel est encore là, Nate Thompson est encore là. T'as Nick Suzuki qui joue de mieux en mieux à chaque match. Puis moi, j'étais vraiment impressionné avec lui à Vegas parce que, écoute, un recrue de 20 ans qui se fait échanger avant même qu'il se rend en Ligue nationale, le choix de première ronde, joue pour la première fois contre l'équipe qui l'a échangé, t'aurais pu penser que ce gars-là va essayer de tout faire, va essayer de démontrer à quel point Vegas a fait une erreur en l'échangeant, mais Nick Suzuki n'a pas fait ça du tout. Il a joué le match, il a laissé le match dérouler, puis il a joué dans le rythme normal du match, puis je trouve qu'il a joué un match excellent au centre en remplacement de Jesperi Kotkaniemi. Qui est entre guillemets blessé, mais en tout cas, on parlera de ça dans deux secondes. Mais dans le fond, ce qui me frappe de cette équipe-là après un mois, c'est ça. C'est le fait que tu vois Nate Thompson aller avec Will et Cousins dans ce match-là. Avant ça, c'était Suzuki et Cousins autour de Nate Thompson qui joue vraiment du bon hockey, qui est vraiment fiable pour Claude Julien. Et ça me frappe à quel point je me rappelle. Claude Julien en novembre qui était au New Jersey. Il y avait Nick Delaurier et Charles Hudon et Mathieu Pekka sur son quatrième trio. Puis il sort devant les journalistes puis il est en train de dire que je peux pas continuer à mettre ce trio-là sur la glace quand ils se font donner des buts à chaque fois. Alors c'est pour moi, c'est une différence frappante que pas une fois Claude Julien est sorti depuis le début de la saison pour se plaindre de son profondeur, le manque de profondeur ou son quatrième trio. Les seuls problèmes se trouvent sur peut-être le 3 avec Paul Byron qui connaît un très lent départ, Kotkaniemi qui aussi connaît un lent départ, puis Lekkonen qui le met pas dedans comme d'habitude. Alors c'est comme le problème est différent, mais c'est pas comme si ces trois gars-là que je viens de nommer font mal à l'équipe. C'est juste qu'ils produisent pas aux attentes que tout le monde avait, mais l'année passée le quatrième trio faisait mal. Il n'y a pas de trio cette année qui fait mal aux Canadiens.
Non, absolument pas. Puis écoute, je veux juste reprendre la balle au bon concernant Nick Suzuki parce que tu mentionnes, tu sais, il a rendu d'excellents services. Quand il a joué avec Cousins et Thompson, ça a très, très bien été. Et là, hier, à Vegas, flanqué de Byron et puis Lekkonen, il a quand même pas eu, tu sais, il s'est retrouvé avec des confrontations assez difficiles. Tu sais, un jeune de 20 ans qui en est à son premier match de saison régulière au centre, mais en fait, du début à la fin du match, à l'étranger, contre une puissance de la Ligue, en termes de confrontation, il y avait clairement un risque là. Puis il s'est retrouvé à jouer. Écoute, l'attaquant qu'il a affronté le plus, Suzuki, hier, c'était William Karlsson. Puis Karlsson a été probablement le joueur le plus explosif des Golden Knights dans ce match-là. Mais pas quand il s'est retrouvé sur la glace contre Suzuki. Quand il s'est retrouvé sur la glace contre le trio de Suzuki, c'est le Canadien qui a eu le dessus avec, écoute, 5 chances de marquer dangereuses pour le Canadien contre aucune pour les Golden Knights. Ça, c'est des statistiques et gracieusetés de Natural Stat Trick, qu'on remercie encore. Mais c'est épatant. Puis il donne en plus tellement de... Il donne une carte très intéressante dans le jeu de Claude Julien en étant capable justement de jouer aussi jeune, aussi rapidement dans la Ligue nationale, à la fois au centre et à l'aile. Parce que là, tu sais, Kotkaniemi a été retranché et puis on peut tout de suite insérer Suzuki dans un poste de centre sur le troisième trio et y accomplit du très très bon travail. C'est un luxe pour une équipe de hockey d'avoir ce genre de joueur-là.
Ben, c'est un luxe qui fait en sorte que les Canadiens ont des options avec Kotkaniemi en ce moment parce que, tu sais, on s'entend qu'il n'est pas vraiment un joueur d'impact. Je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus. Hein? Ce joueur de 19 ans, il faut être patient avec lui. C'est pas comme s'il fait des erreurs qui coûtent, même si l'autre soir à Arizona, il a causé un revirement qui a fait en sorte que les Coyotes ont eu une très bonne chance de marquer. Puis finalement, il y a eu plusieurs revirements pendant ce match-là. Mais s'il était bel et bien blessé, comme Claude Julien l'a expliqué avant le match contre Las Vegas, ça s'explique un peu. Mais dans son cas, il y a un argument que je pense plusieurs partisans sont en train de faire, puis un argument qui est quand même rendu assez valide là, c'est que si tu as une option comme Nick Suzuki pour aller jouer sur le 3, tu as un Jordan Wheel qui n'est pas capable de jouer, de percer l'alignement sans blessure, est-ce que ça vaut la peine que Kotkaniemi fait un stage à Laval comme Victor Mété l'a fait l'année passée pour aller retrouver sa confiance, retrouver son niveau de jeu, travailler sur des choses précises que Joël Bouchard pourrait identifier avec lui, puis travailler avec lui ou même Alex Burrows, et revenir comme Victor Mété l'a fait, puis on a vu à quel point Mété était très, très, très... a réussi vraiment à prendre les leçons qu'il a apprises à Laval puis les appliquer dans la Ligue nationale à son retour. Et je me demande si peut-être... Je sais pas, mais est-ce que ça pourrait être une option avec Kotkaniemi quand il revient de ce voyage-là?
Ben moi, ça m'apparaît clairement comme une option. Je sais pas si le Canadien va le faire, mais tu mentionnes Victor Mété, qu'il est... il est allé à Laval quoi, 2 semaines et demie l'année dernière. C'est un bon ami de Kotkaniemi, puis je me dis, ben, il pourrait très bien vendre la chose si ça devait se produire. Il pourrait dire, écoute, Kéké, moi, ça m'a fait du bien l'année dernière. Vois-le pas comme étant un drame, comme étant la fin du monde. Mon souci dans tout ça, c'est que je pense que ça va être important que l'organisation du Canadien, que ce soit Bergevin ou Claude Julien, soit sur la même longueur d'onde avec Jesperi Kotkaniemi par rapport à ce qu'ils veulent accomplir avec lui, par rapport à là où il est en est dans son niveau de performance, puis que, tu sais, lui ne se retrouve pas à sentir que, par exemple, il y a des critiques que lui juge, il y a des décisions qui sont prises que lui va prendre comme étant des critiques alors que ça n'en est pas nécessairement. Je pense que c'est important qu'il y ait de la bonne communication pour éviter qu'il y ait des messages qui soient mal interprétés, il y a des décisions qui soient mal interprétées et que ça amène un jeune joueur sur lequel le Canadien compte énormément, pas l'envoyer sur une route, sur un terrain un peu plus glissant qui fera en sorte que la relation pourrait être fragilisée. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus, mais j'ai l'impression que il faut que tout le monde reste prudent et que quand quelque chose va être fait, que ce soit fait de concert avec tout le monde. Que ce soit, évidemment, tu sais, quelqu'un ne dira pas « Ben non, moi, je ne veux pas y aller. » Il va faire ce qu'on lui demande. Mais je pense que c'est important qu'il comprenne et qu'il accepte les décisions qui vont être prises à son endroit, quelles qu'elles soient.
Oui, puis ça, c'est un facteur. C'est bon de l'identifier parce que... Mais une chose que j'ai appris à connaître de ce jeune homme-là, c'est que la critique, ça ne lui dérange pas, vraiment. T'sais, il est capable de reconnaître quand son jeu n'est pas à la hauteur de ses propres attentes puis les attentes de l'équipe. Puis je pense qu'il serait le premier à admettre en ce moment qu'il se cherche un peu. Là-dessus, il n'y a pas de problème. T'sais, il est vraiment... C'est quelqu'un... qui est capable de prendre responsabilité pour ses propres performances. Il est capable de le faire. Mais ma question, c'est que est-ce que ça vaut la peine? Parce que, dans le fond, en thème réel, en ce moment, le trio que Suzuki a piloté à Vegas, mais le trio normal de Kotkaniemi, c'est plus ou moins rendu le quatrième trio de l'équipe. En termes d'utilisation, en termes de plein de facteurs, là, en termes d'importance. Alors, tu sais, puis il y a plein de monde qui vont dire « Ah, avoir un jeune joueur sur le quatrième trio, ça vaut pas la peine, laisse-le aller à Laval, puis jouer sur le premier ou deuxième trio. » Mais en fait, il serait sur le premier trio à Laval, c'est sûr. Laisse-le jouer au premier trio, jouer jeu de puissance et jouer beaucoup, beaucoup de minutes, puis revenir quand il aura pris sa confiance. Puis c'est pas fou comme raisonnement. Mais moi, mon affaire, c'est que, tu sais, Kotkaniemi, je trouve qu'en jouant sur un quatrième trio, peut aider l'équipe. Même s'il est en train de se chercher un peu, tu sais, on peut pas le laisser perdurer pendant des semaines et des semaines, là, mais je pense que ça vaudrait la peine de le garder à Montréal, puis laisser travailler toutes ces petites lacunes-là. Et essayer de faire en sorte qu'il va s'en sortir lui-même. Et ça, s'il y a une valeur aussi à ça, qu'un jeune joueur apprend comment faire ça dans la Ligue nationale, parce que ça ne va pas toujours aller bien, il faut trouver les moyens, trouver la façon, les techniques, les méthodes qui sont disponibles à toi pour t'en sortir d'une certaine léthargie. Et tout le monde est d'accord qu'il est en milieu d'une petite léthargie en ce moment, et c'est quelque chose qu'il doit apprendre à gérer, et à s'en sortir, c'est plus difficile tu peux pas vraiment faire ça si tu es renvoyé à Laval. Il y a d'autres bénéfices d'être renvoyé à Laval, mais moi je trouve que le plus grand bénéfice de le garder à Montréal en ce moment, c'est pour qu'il apprend comment changer le vapeur ou comment s'en sortir de cette séquence-là où il joue des matchs qui sont sans impact. Alors ça, je pense que pour un jeune de 19 ans, il y a une valeur là-dedans aussi qu'il faut peser dans la balance.
Oui, mais en même temps, il faut aussi que le Canadien mette sur la glace les 12 attaquants les plus efficaces qu'ils ont. Puis c'est clair que Jesperi est un des trois plus talentueux attaquants de cette équipe-là, mais en ce moment, il est peut-être pas l'un des 12. Ça joue vraiment entre Will et lui, puis on pourrait peut-être inclure Byron là-dedans également.
Tu peux inclure Paul Byron aussi, c'est ça l'affaire, c'est que... Tu sais, Paul Byron, c'est plus difficile de parler de Paul Byron parce qu'il porte un os sur son chandail, parce que c'est un vétéran, parce qu'il est en première année d'une prolongation de contrat, parce qu'il vient d'avoir 30 ans. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que si Paul Byron est en train de démontrer un certain déclin dans son jeu, c'est quelque chose d'inquiétant pour le Canadien. Tu sais, il n'y a rien dans le jeu de Kotkaniemi qui est inquiétant à long terme. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est plus facile de dire « Ah, écoute, on peut renvoyer. » Mais Paul Byron, à mon avis, la façon qu'il joue, il devrait avoir une certaine inquiétude parce que ça, c'est un gars qui mise sur sa rapidité. S'il n'est pas un des joueurs le plus rapide, sinon le joueur le plus rapide sur la glace dans n'importe quel match, c'est un joueur qui n'est pas aussi, qui n'a pas une valeur aussi élevée que le joueur qui a signé ce contrat-là. L'année passée. Alors, le Canadien doit regarder et voir si tout va bien en termes de santé. Puis si effectivement tout va bien en termes de santé, puis je peux pas croire qu'il y a un problème de santé rendu là, parce que il y a aucune raison de faire Paul Byron jouer avec une blessure en mois d'octobre quand ils ont des joueurs qui sont capables de jouer, qui leur feraient pas mal, qui sont laissés de côté à chaque soir. Tu sais, quand il y a un Jordan Wheel disponible à l'aile droite, pourquoi tu ferais jouer Paul Byron s'il était blessé? Alors, il y a vraiment des questions un peu difficiles qu'il faut que le Canadien juste commence à considérer, au moins dans son cas, parce que s'il a perdu sa façon explosive de patiner, ça va être un problème à long terme ici, là.
Oui, absolument, parce que ça pourrait être un problème au plan salarial, parce que c'est ça, c'est plusieurs années d'union entre Byron et le Canadien. Puis tu sais, il arrive aussi à un âge, quand tu arrives au début de la trentaine comme ça, puis tu n'as pas été épargné par les blessures au cours des deux dernières années, c'est normal qu'on se pose la question à savoir si est-ce que c'est le début d'un déclin. Ce ne serait pas nécessairement trop tôt pour que ça arrive. Il y a plein de joueurs qui s'arrivent autour de cet âge-là. Mais le Canadien a besoin de lui en même temps. L'équipe a tellement eu de problèmes avec le désavantage numérique depuis le début de la saison. Lui, il est l'un de ceux qui peut rendre des services à ce niveau-là. Remarque, Nick Suzuki peut aider aussi. Lui, il est là. Tu vois, ça, c'est un autre aspect sur lequel Suzuki peut venir donner un coup de main. Mais je suis d'accord avec toi, sauf que il y a aussi l'aspect compétitif des joueurs où, tu sais, s'ils ont des bobos, est-ce qu'ils vont vraiment toujours agir avec une pleine transparence auprès du reste de l'équipe et dire « Ah oui, j'ai telle petite affaire. » Lui, il doit le savoir, dire ben, « Là, plus le temps passe, plus ma position dans l'équipe est délicate. C'est probablement pas le temps pour moi de me sortir de l'alignement puis de laisser quelqu'un prendre ma place puis que ça devienne simplement plus difficile après coup de m'imposer puis de reprendre mon poste.
Ouais, » si
peut-être que lui, à quelque part, se dit « Ben, oui. »
Mais s'il y avait un moment pour Paul Byron qu'il fallait qu'il se bat toute sa vie pour avoir le contrat qu'il vient d'avoir, c'est un moment pour ce gars-là de dire « Écoute, il y a quelque chose qui va mal. » Avoir la sécurité de ce contrat-là. Tu sais, le contrat va faire en sorte que les Canadiens vont trouver toutes les excuses au monde pour le garder dans l'alignement. C'est pas comme s'ils veulent retirer Paul Byron de l'alignement. C'est pas si facile. C'est pas quelque chose de facile à faire quand il est en première année d'un contrat qui est quand même assez imposant. Moi, dans ma tête, je penserais qu'un gars comme ça, que toute sa vie, il a dû penser comme tu viens de décrire. Il a dû penser comme « Oh, est-ce que je peux dire que j'ai tel bobo parce que je vais perdre mon poste dans l'alignement. » Pour la première fois de sa carrière, il y a un contrat qui fait en sorte qu'il ne perdra pas son poste s'il est blessé. Alors, c'est pour ça que j'ai de la misère à croire qu'il est en train de cacher une blessure, sauf s'il est juste... Il veut prendre rien pour acquis, puis le contrat n'a aucunement changé sa façon de penser. Mais à mon avis, un gars comme ça qui entame un nouveau contrat, qui donne le plus de sécurité qu'il ait jamais eu de toute sa vie, dirait que, OK, bon, ben écoute, je vais leur dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici, je vais le régler, puis je vais revenir, ils vont me réinsérer dans l'alignement sans aucune question, parce que c'est quand même, il y a une lettre sur son chandail, puis il y a un contrat à long terme. Je ne peux pas croire que le Canadien, s'il était en santé après avoir quitté pour une blessure, s'il était en santé, hésiterait de le remettre dans l'alignement, là. Ça serait un non-sens.
Ouais. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une blessure, Paul Byron, mais ce qui est clair, c'est que la vitesse explosive qu'on lui connaît en ce moment, elle n'est pas là.
Non.
Et pour ce qui est juste, puis on va, tu sais, je veux juste boucler la boucle parce que tu as fait allusion à la blessure de Kotkaniemi également. Moi, je ne mettrai pas en doute ce que le Canadien a émis comme commentaire. Ce que je les crois quand ils disent que Kotkaniemi est blessé, mais on doit quand même reconnaître que ça tombe drôlement bien. Ça, ouais. T'sais, c'est donc bien pratique comme petite blessure parce que la corde devenait de plus en plus... sa corde raccourcissait de match en match, Kotkaniemi, puis peut-être que le petit repos va lui faire du bien.
Ben, c'est-à-dire, en anglais, on a une expression qui dit comme « Are you hurt or are you injured? » Comme « As-tu un bobo ou es-tu blessé? » C'est deux choses différentes. Puis moi, j'en doute pas que Kotkaniemi a peut-être un bobo. Mais la seule, et j'en doute rien de ce que Claude Julien a dit avant le match, qui a aggravé la blessure pendant le match à Arizona, puis que tout ça, est vrai. J'ai aucune raison de douter ce qu'il a dit. Ma seule question, c'est que est-ce que c'était aussi grave qu'il ne pouvait pas jouer dans ce match-là, ou est-ce que c'était assez grave que ça leur donnait une bonne excuse de sortir de l'alignement? C'est juste ça. Moi, j'en doute aucunement qu'il y a quelque chose qui va mal avec Allen, avec lui. C'est juste la gravité de la blessure que je m'en doute. Si c'était aussi grave que ça nécessitait absolument qu'il sorte de l'alignement, ça faisait en sorte que son niveau de jeu probablement nécessitait aussi une certaine décision. Et je vais juste dire ça en passant, mais le Rocket de Laval joue 3 matchs à domicile le 13, 15 et 16 novembre. Alors 3 matchs en 4 soirs à domicile à Laval. Alors, si jamais, je pense que si le Canadien pensait peut-être faire quelque chose avec Kotkaniemi, ça serait une belle fenêtre pour eux autres de faire ça. Il n'aurait pas à quitter Montréal, il n'aurait pas à aller sur la route comme sur les autobus et faire tous les voyages qui sont un peu moins confortables dans la Ligue américaine. Ça lui permettrait de jouer 3 matchs en 4 soirs si nécessaire. Mais à mon avis, ils vont attendre jusqu'à cette fenêtre-là avant de prendre une décision comme ça. Mais je pense pas qu'ils sont même rendus là en ce moment.
Bon, mais là, Arpen, prends une gorgée d'eau. Faut que je parle à nos auditeurs un instant.
OK. Vas-y.
Grosse journée au bureau? Ah, oh, t'es encore au bureau? Ou t'es en train d'étudier pour un examen? Mais fais-toi plaisir en laissant venir à toi tes restaurants préférés grâce à DoorDash. Commander est facile, tu as simplement à ouvrir l'application DoorDash, DoorDash, choisir ce que tu veux manger et ton repas va être livré chez toi où que tu sois. DoorDash est présent dans 3300 villes en Amérique du Nord. En ce moment, nos auditeurs peuvent obtenir 5$ de rabais sur leur première commande de 15$ au plus quand ils téléchargent l'application DoorDash et qu'ils entrent le code promotionnel SUPPORT. C'est 5$ de rabais sur ta première commande quand tu télécharges l'application DoorDash à partir du App Store et que tu entres le code promotionnel SUPPORT. N'oublie pas, le code c'est SUPPORT pour avoir 5$ de rabais sur ta première commande. Bon, cela étant dit, je voulais également te parler, puisqu'on est, on vient de voir le match canadien contre Vegas, je voulais te parler du gardien auxiliaire. Keith Kincaid, bon, est-ce que tu es réconforté, rassuré depuis le début de la saison en regardant les performances de Keith Kincaid et que tu dis oui, c'est le gars qu'il nous faut, ou c'est le, ben, pas qu'il nous faut, mais qu'il faut aux Canadiens pour seconder Price de la bonne façon et pour lui ôter un petit peu de pression sur les épaules puis obtenir des départs additionnels. Est-ce qu'il est le bon candidat, à ton avis?
Ben, en fait, le match le plus inquiétant, à mes yeux, c'était celui à Vegas, parce que, dans le fond, il a donné beaucoup de buts dans ses matchs, ses deux premiers matchs, mais je trouvais que le Canadien a joué tellement croche défensivement devant lui que je pouvais pas vraiment le blâmer dans les deux autres cas. Mais à Las Vegas, les deux buts que lui-même a identifiés comme étant problématiques et que toi, tu as mentionné dans ton texte après le match, le but de Tuck en toute fin de première période qui a vraiment coupé les jambes du Canadien puis donné le momentum aux Knights, et l'autre but où il a mal lu le troisième but du match, où il a mal lu le jeu de je pense que c'était de Cody Glass, si je me trompe pas.
Cody Glass,
ouais. Ouais, Cody Glass. Ces deux buts-là, dans le contexte du match qui était en train de jouer, le fait que le Canadien, contre toute attente, était compétitif dans ce match-là. Il était capable de patiner avec les Knights, plus ou moins, même si les tirs au but, ça donnait l'avantage assez décisivement à Vegas. Il était dans le match et c'était à cause de lui qu'il fallait jouer du hockey de rattrapage. Plein mérite aux Canadiens de l'avoir fait, mais c'est pas une situation dans laquelle où c'est ce genre de match où tu aimerais ça que ton auxiliaire, tu sais, reconnaisse ce que ses coéquipiers sont en train de faire et élever son jeu d'un cran puis vraiment essayer de garder le rythme de tout le monde d'autre qui est sur la glace. Lui étant le seul gars qui était très reposé, que la fatigue n'était pas un facteur. Ça, je trouvais ça un peu difficile. Beaucoup plus, ben à mes yeux au moins, c'était beaucoup plus... je dirais, pas troublant, mais c'est beaucoup plus difficile à croire que la performance contre Vegas, que ces deux premiers matchs où il a probablement donné plus de buts, mais je trouvais qu'il a quand même joué bien dans ces deux matchs précédents.
Plus, il avait fait plus d'arrêts clés, oui. Ouais. Ben, moi, j'ai l'impression que le Canadien va lui donner quand même la chance de se replacer puis de voir est-ce qu'ils peuvent le rapprocher du Keith Kincaid d'il y a 2 ans, quand il avait quand même connu une assez bonne saison avec les Devils du New Jersey. Mais en même temps, l'équipe n'a pas non plus le luxe d'attendre trop longtemps puis de se dire, tu sais, l'année dernière, ils ont identifié probablement un problème avec Antiniemi assez tôt en saison. Ils ont laissé la situation perdurer. Finalement, ça leur a coûté des points précieux au classement. Lors de certains matchs que Niemi a carrément échappé, dont celui auquel tu faisais allusion plus tôt à San Jose. Mais sauf que les options sont pas énormes, parce que Charlie Lindgren, j'aurais aimé qu'après avoir connu une saison où il a été, il a été blessé aux hanches, puis les choses ne fonctionnaient pas pour lui. En fait, c'est deux saisons de suite où on a l'impression que son développement a plafonné. J'aurais aimé ça le voir entreprendre la saison à Laval cette année en s'imposant vraiment comme un gars qui devient pratiquement trop fort pour la Ligue américaine et qui peut être une alternative viable si jamais ça ne fonctionne pas avec Kincaid. Mais au contraire, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est Caden Primo, la petite recrue de 20 ans, qui offre du hockey supérieur à celui de Lindgren. Alors là, la question qu'on pourrait se poser si jamais la situation de Kincaid ne devait pas s'améliorer, c'est est-ce qu'on verrait Caden Primo dans la Ligue nationale dès cette année? Je sais qu'il y en a dans l'organisation du Canadien qui retiennent leur souffle et qui trouvent ça un peu précoce et un peu prématuré d'imaginer Primo devant un filet de la Ligue nationale dès cette année. Mais j'aimerais t'entendre là-dessus.
Ben, je pense, à mon avis, je pense que ça prendrait une blessure à Price pour voir Primo dans la Ligue nationale. Puis une blessure à Price, oui, à un moment de la saison où ils ne peuvent pas se permettre de perdre des matchs à cause de leur jeu, à cause de leur jeu devant leur filet. Alors, la seule façon que Caden Primo va te rappeler à Montréal, c'est s'il est rappelé comme le partant. Je ne peux pas croire qu'il va venir pour faire remplacement à Keith Kincaid puis jouer une fois sur 6-7 matchs. Là. Dans ce rôle-là, je verrais Charlie Lindgren, puis je pourrais voir le Canadien, au lieu de faire un échange pour un Louis Domingue ou quoi, qui que ce soit qui est disponible en ce moment, donner une chance à Charlie Lindgren de se faire valoir dans ce rôle-là. Il a quand même plus ou moins bien joué la plupart des fois qu'il a joué dans la Ligue nationale. C'est vraiment dans la Ligue américaine que ses chiffres souffrent. En ce moment, il y a un pourcentage d'arrêt de 8,95, mais une moyenne de but alloué de 2,64 à Laval. Alors, c'est pas catastrophique, c'est pas idéal non plus. C'est pas comme s'il est en train de dominer.
C'est dans la moyenne des gardiens de la Ligue américaine.
Ouais, c'est ça. Lui est un gardien comme les autres dans la Ligue américaine. Mais si jamais c'était une question de remplacer Kincaid, je pense que c'est Lindgren qui aurait le dessus là-dessus. Mais si jamais quelque chose arrivait à Price et que Kincaid montrait qu'il n'était pas capable de le remplacer, je pense que c'est Primo qui serait tout d'un coup le gardien numéro un à Montréal, même si je sais que l'organisation, c'est vraiment une situation d'urgence qui causerait le Canadien à rappeler qu'il y a une Primo dans la Ligue nationale, parce que je pense que le souhait sincère de l'organisation, c'est qu'il passe toute sa saison recrue à Laval, qu'il domine là-bas, qu'il prend de confiance, qu'il entame bien sa carrière professionnelle là-bas sans avoir la pression et la distraction de jouer à Montréal à l'âge de 20 ans. Alors c'est vraiment, ils veulent pas comme toucher à le petit joyau de l'organisation en termes des espoirs de gardien de but. Faire ça avec Lindgren, il pourrait le faire, parce que rendu là, il n'est plus le joyau de l'organisation à cette position-là. Et il pourrait venir à Montréal facilement, jouer le rôle d'auxiliaire, et il pourrait lui donner la chance de prendre ce boulot-là si jamais Kincaid n'est pas à la hauteur.
Ouais, mais tu vois, moi je me dis que si le Canadien avait estimé suffisamment Lindgren pour dire on le considère comme un candidat viable pour être un substitut à Montréal, compte tenu du fait qu'il était déjà sous contrat, sur un contrat à sens unique maintenant de la Ligue nationale, il lui aurait fait confiance plutôt que d'aller chercher Kincaid à l'extérieur. Puis depuis l'embauche de Kincaid, lui, il n'a rien fait, Lindgren, pour vraiment les faire mentir dans leur décision. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que dans le cas de Lindgren, on approche du bout de la route. T'sais. En tout cas, c'est une situation qui est délicate parce que le Canadien a tellement de profondeur dans son organisation maintenant devant les buts. Ce serait un peu étrange de dire, ben là, ça ne fonctionne pas, on va aller en trouver un autre à court terme pour la fin de la saison, aller essayer de trouver un autre substitut ailleurs. Des gardiens de but qui changent d'adresse durant la saison, il n'y en a pas beaucoup. C'est arrivé avec le Canadien il y a quelques années avec Ben Scrivens. en échange d'un Zach Kassian en cure de désintoxication, mais c'est pas fréquent.
T'sais. Non, mais aussi, je pense pas qu'on est rendu là. T'sais, je pense que Kincaid, écoute, il a pas eu le meilleur match au monde, il a pas eu le meilleur départ cette saison. Moi, je donnerais du temps à Stéphane Waite, travailler avec lui, voir vraiment si c'est un problème, mais c'est une chose qui est claire, c'est que son début de saison fait en sorte qu'à chaque fois qu'il reçoit un départ, le niveau d'urgence va augmenter un peu par peu à chaque match qui soit là. Parce que c'est certain qu'au niveau, dans le bureau du directeur général cette année, il doit avoir une certaine reconnaissance ou un certain regret d'avoir pas réagi à la situation avec Miami l'année passée plus rapidement, ou en fait réagi tout point, parce que ça n'a jamais été fait. Alors, je dois croire que cette année, si on ne voit pas d'amélioration de la part de Kincaid, Marc Bergevin et ses adjoints vont être plus rapides et plus... c'est plus présent dans leur cerveau, dans leur pensée, qu'ils ne peuvent pas permettre aux positions de gardien auxiliaire de leur coûter un spot, un accès aux séries éliminatoires, parce que c'est plate, pour être bien honnête, que toutes les autres choses de ton équipe vont bien, sauf le jeu de puissance et le gardien auxiliaire sont deux aspects qui sont supposés être juste des choses un peu marginales, peut-être moins le jeu de puissance, mais d'avoir un gardien auxiliaire qui te coûte des matchs de séries éliminatoires, c'est vraiment, ça doit être frustrant au plus haut point pour le directeur général. Alors, s'il voit cette année, à mon avis, s'il voit cette année que la même chose pourrait se produire, je pense qu'il va agir plus rapidement que non. Et si ça veut dire faire une transaction pour aller chercher un autre gardien, si ça veut dire donner une chance à Lindgren, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est sûr, dans mon esprit à moi, que Keith Kincaid, il n'aura pas droit à toute la patience qu'Antiniemi avait l'année passée.
Non, effectivement. Si l'équipe a retenu ses leçons, ça va être le cas. Il serait mieux d'agir. Mais en tout cas, laissons-lui le temps quand même de voir s'il peut se remettre droit. Il y a d'autres aspects du Canadien qui se sont remis droit. Jusqu'à maintenant, le Canadien a un bon voyage au niveau de l'infériorité numérique. Ça, c'est encourageant. Ça va être un gros problème en début de saison. En général, c'est peut-être le dernier point que je voulais toucher avec toi aujourd'hui, c'est au niveau de la brigade défensive. On constate que c'est une brigade défensive qui est souvent embêtée dans son territoire, qui réagit peut-être un peu moins bien que l'année dernière à la pression de l'échec avant de l'adversaire. La coordination puis la communication entre les défenseurs et les attaquants ne m'apparaît pas toujours optimale, mais quand je regarde les performances individuelles de certains défenseurs, je me dis que ça devrait finir par rentrer dans l'ordre. Ben Chiarot, je trouve, commence à jouer du meilleur hockey. Et Cale Fleury également. Cale Fleury est en train vraiment de faire sa niche et de montrer par le style de jeu qu'il a qu'il est beaucoup moins à risque que son partenaire Mike Riley. Et il est en train vraiment de décrocher un poste régulier en ce moment-là.
Oui, non, je suis entièrement d'accord. Puis il faut aussi mentionner le fait que chez Weber et Victor Mété, même si je pense que Weber a eu un petit bévu sur le but de Tuck en fin de première période contre Vegas, mais en général, ce duo-là joue beaucoup mieux qu'il jouait au début de saison. Alors oui, ça se remet un peu. Je suis d'accord avec toi sur Chiarot aussi. Il y a Kulak qui essaie de trouver son jeu cette année. Je l'ai parlé avant que l'équipe a quitté... sur le voyage pour jaser un peu de sa situation. Puis, tu sais, je l'ai demandé, tu sais, Claude qui mentionne à plusieurs occasions qu'il est en train de jouer mal avec la rondelle, prendre des mauvaises décisions, cafouiller un peu. C'est un peu un problème de gestion de rondelle dans son cas. Je lui ai demandé s'il était d'accord ou non. Puis Claude, il a dit oui. Il dit, je pense qu'il a joué 7 matchs cette année. Là, puis pour moi, 5 sur les 7 matchs, j'en ai joué peut-être 2 de bons. J'en ai joué 5 qui n'étaient pas bons. Ouais. Lui n'est pas satisfait pantoute avec son niveau de jeu. Il n'était pas... Mm-hmm. Il était pas comme... Il voulait pas dire que je suis entièrement d'accord avec ce que Claude a dit, mais il a pas non plus dit qu'il était pas d'accord avec... que Claude était pas justifié dans ses commentaires. Là. Il était comme, écoute, moi je sais que je joue mal, je comprends que j'ai de la misère de temps en temps, puis il faut que je règle ça, je sais pas comment je vais le faire, mais quand je rentre dans l'alignement, je vais trouver une façon de faire en sorte que les erreurs soient minimisées, parce que La force dans son jeu l'année passée, c'était que s'il y avait une erreur de fait sur son duo, c'est Jeff Petrie qui le faisait plus souvent que non, là. Alors, là, c'était rendu où c'était lui la source des erreurs, mais s'il est capable, parce que dans le fond, on a quand même un plus grand échantillon de Brett Kulak qui est bon qu'un échantillon de Brett Kulak qui est mauvais. Et s'il est capable de trouver son jeu, la brigade défensive au complet, si tu mets Kulak à côté de Riley, non pas Riley, Fleury, sur une troisième paire, puis tu gardes Sherrod, qui, moi, je trouve, comme toi, qui joue bien depuis qu'il est avec Petrie, là, tu as une brigade défensive qui a un peu plus d'allure.
Oui, c'est ça. En fait, c'est le Kulak de l'an dernier qu'on veut revoir. À mon avis, le Kulak de l'an dernier est un défenseur supérieur à ce que Sherrod peut apporter. Le problème, c'est que la version de Kulak qu'on a depuis le début de la saison, c'est pas un défenseur qui est supérieur à Sherrod. Tu sais, je te parlais tantôt des joueurs qui réagissent à la pression exercée par l'adversaire. On dirait que quand il est précipité dans ses décisions, qu'il manque de temps, qu'il manque d'espace, Kulak a tendance à cafouiller ce qu'il ne faisait pas l'année dernière. Donc, des fois, c'est une question de confiance aussi. Mais il reste encore des morceaux, clairement, à mettre en place au sein de cette brigade défensive-là. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait harmonieux. Je ne sais pas s'ils réussiront un jour à régler leur problème d'aller chercher un défenseur top 4 gaucher qui permettrait de descendre Victor Mété dans la hiérarchie de la ligne bleue. Mais il faut qu'ils fonctionnent avec ce qu'ils ont, comme nous a rappelé Claude Julien il y a quelques semaines. Mais je me mets à la place de l'entraîneur qui valorise tellement la qualité du jeu défensif de son équipe. Et c'est un ancien défenseur, il ne faut pas l'oublier. Claude Julien, c'est un ancien défenseur. Il y a comme un petit parti pris pour les défenseurs. Et souvent, quand sa brigade défensive est critiquée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oui, mais regardez les attaquants qui ne viennent pas en soutien, qui sont lents dans leur repli, qui ne reviennent pas suffisamment pour être en soutien dans les batailles en coin de patinoire, etc., etc. Donc, il rappelle constamment le fait que l'aspect défensif est un enjeu de l'unité des cinq joueurs et non pas des défenseurs seulement. T'sais. Alors, étant donné que tu as une structure qui tient assez bien la route, mais avec des défenseurs qui ne sont clairement pas dans la chaise idéale pour chacun d'eux, ben c'est d'autant plus important dans ces situations-là que les attaquants fassent leur travail pour pouvoir faire en sorte que la présence défensive globale de l'équipe soit améliorée.
Ouais. Enfin, en conclusion, je trouve que le problème que Claude avait avec ses attaquants l'année passée, c'est transféré à sa brigade défensive cette année. C'est un peu ça de trouver le monde qui sont capables de jouer troisième paire, mais vraiment compléter sa brigade pour qu'il y ait confiance dans les trois paires et qu'il soit capable de jouer son système en donnant des minutes un peu à tout le monde. Il l'a parmi ses attaquants, même si Kotkaniemi, Byron et Lekkonen sont en train d'avoir un lent début de saison. C'est pas comme s'il ne peut pas mettre ces trois gars-là sur la glace, mais au niveau de la brigade défensive, il est encore en train de trouver la bonne formule pour que tout le monde joue d'une façon efficace et joue au niveau de leur potentiel. Alors, c'est un peu comme si le problème qu'il voyait l'année passée pour ses attaquants se retrouve en défense cette année.
Bon, ben voilà. Alors, écoute, on a fait un bon tour d'horizon, bon tour de table du premier mois d'activité chez le Canadien. J'espère que les gens ont apprécié. De toute façon, on n'a pas fini d'en parler du Canadien. C'est un combat continuel. Alors, d'ici là, écoute, Arpen, je voulais te rappeler le fait que lundi, on va avoir notre épisode, notre mini-podcast pour les abonnés d'Athlétique Montréal. Donc, si vous êtes abonné, on va avoir notre item de plus lundi matin. Et puis, c'est ça. Et évidemment, comme on en a pris l'habitude, on alterne d'une semaine à l'autre entre les épisodes en anglais et en français. Donc, voilà. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus?
Non, juste une petite note pour rappeler nos abonnés que jeudi prochain, le 7 novembre, Marc-Antoine va être en Philadelphie pour couvrir le match canadien contre les Flyers. Moi, je serai au McKibben's Irish Pub au centre-ville pour accueillir nos abonnés. On va avoir tout un étage de l'édifice à nous pour regarder effectivement le match du Canadien contre les Flyers. Il va avoir une session questions-réponses avec moi avant le match. Alors j'invite les 100 premiers abonnés qui arrivent vont recevoir un petit coupon pour un drink à notre frais. Alors je vous invite tous à checker notre compte Twitter, le compte Twitter de Athletic Montréal et le mien et celui de Marc-Antoine aussi pour voir, pour trouver le lien où vous pourriez vous inscrire gratuitement pour cet événement qui va avoir lieu encore une fois le 7 novembre, jeudi au McKibbin's Irish Pub. Ça va commencer vers 17h. Alors j'espère de vous voir en grand nombre.
Un petit 5 à 7 agréable avant le match, c'est le fun, c'est ça. C'est très le fun. Puis de retrouver les gens de la communauté qu'on est en train de bâtir, c'est très agréable. Alors, à chaque fois qu'on a fait des événements du genre, ça a été bien sympathique. Alors, ben oui, j'invite les gens à y aller, même si moi, je ne serai pas là cette fois-ci. Mais je pense qu'on va en avoir un autre plus tard en saison où là, en fait, je vais pouvoir y être. Ouais. Alors, merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Puis on se reparle bientôt. Bye bye, Arpin.
Salut.